Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 6h.
Avec un réseau de plus de 500 bénévoles, l'association T'as un ami réalise des binômes d'amitié entre une personne isolée, quel que soit son âge, son handicap, son origine, et un ami bénévole. Parce que tout le monde a besoin d'un ami, rencontre avec Jean-Jacques Derosio, président de l'association T'as un ami, Julien et Marine, tous deux étudiants et bénévoles de cette association.
L'association T'as un ami est une association qui a pour objectif d'accompagner femmes, hommes et enfants isolés. Notre premier rôle est de proposer un ami bénévole auprès d'une personne isolée qui ira lui rendre visite une voire plusieurs fois par semaine pour parler, discuter, dialoguer. En plus de cette activité essentielle, avec un réseau de 500 bénévoles essentiellement situés sur le Nord-Pas-de-Calais, nous réalisons des activités culturelles pour 4000 personnes par an. On sait que par la culture, les personnes isolées s'ouvrent au monde d'aujourd'hui. Et notre troisième activité, si vous avez un rêve, si une personne isolée a un rêve, on peut financer le rêve. Rêve d'une vie ordinaire, bien sûr, si c'est pour aller au Canada, j'aimerais bien y aller aussi. Mais ce sont des rêves d'une vie ordinaire et c'est important de pouvoir les aider.
Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand existe cette association ?
Bien sûr, l'association a été créée il y a exactement 11 ans. Nous avons fêté nos 10 ans il y a un an. Cette association s'est développée assez rapidement, tant l'isolement en France est forte.
Et pourquoi est-ce que vous avez créé cette association ?
Ah, c'est une bonne question. Alors, j'accompagnais quand j'étais encore dans le monde professionnel une personne âgée qui s'appelait Eliane Boët, qui n'est plus de ce monde. Et lorsqu'elle a quitté il y a 11 ans notre monde, on a pensé beaucoup à elle, j'ai pensé beaucoup à elle. Elle disait à tout le monde, j'ai un ami, j'ai un ami. On s'est dit qu'on va essayer de créer une nouvelle association qui porterait le nom Tu as un ami, parce que je pense que l'amitié peut sauver le monde d'aujourd'hui. Voilà l'origine de cette association. On pensait être 10-15 bénévoles, mais on s'est développé très très rapidement.
Et vous intervenez sur quel territoire ?
Alors on est présent sur Lille et autour de Lille sur à peu près 25 km, donc quasiment toutes les villes. On est présent sur Saint-Amand-les-Eaux et 10 km autour de Saint-Amand-les-Eaux, Armentières. On est aussi très présent dans les corons miniers du Pas-de-Calais, là où il y a beaucoup, beaucoup d'isolement. Et on est sur quelques villes aussi périphériques. Mais on n'est que sur le Nord-Pas-de-Calais.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions que vous avez déjà menées ?
Je vais vous donner une action d'abord, en dehors de l'accompagnement qui reste le cœur de notre activité. On réalise par exemple des activités culturelles. On a créé deux tiers-lieux, un à Lens et un à Lille, où on réunit des personnes isolées, hommes, femmes et enfants, et on fait des conférences sur tous les sujets. Ça peut être la conférence sur un pays, ça peut être aussi une activité autour du jardinage, sur l'écologie. Donc on fait comme ça 150 activités par an pour pouvoir effectivement réunir toutes les générations, de toute origine, j'insiste, c'est-à-dire que nous ne regardons pas l'origine. Ça peut être des personnes qui sont sans papier, ça peut être des gens très isolés, ça peut être des familles monoparentales et qui viennent effectivement dans le monde mélangé que l'on souhaite mettre en œuvre, faire une activité tous ensemble. Mais toujours culturelle, c'est-à-dire ça apporte quelque chose au niveau des participants.
Ça doit demander une sacrée organisation.
Vous avez raison. On a beaucoup de bénévoles, on a deux aujourd'hui ici, qui donnent beaucoup de leur temps pour organiser cela. Mais on fait toutes ces activités avec les bénévoles et on a aujourd'hui très peu de salariés puisqu'on est à l'équivalent, un équivalent temps plein en salariés. Mais on essaye de jouer beaucoup sur le bénévole. C'est d'autant plus important, c'est qu'on voit aujourd'hui que les subventions baissent dans le monde associatif et on n'a pas envie de trop vite développer le monde de l'emploi chez nous, même si ce serait très intéressant.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez rencontré cette association ?
Alors moi je sais que j'ai une amie qui avait été bénévole pour cette association avant, elle m'en avait parlé, elle a bien aimé les projets et c'est une association qui permet de trouver du sens à ce qu'on fait finalement parce que l'isolement social ça touche toutes les générations, des personnes âgées aux plus jeunes et c'est pour ça que je voulais essayer de m'investir, donner de mon temps pour trouver du sens tout simplement.
Moi c'est pareil, on m'en avait parlé à mon université et donc j'ai fait la rencontre de Jean-Jacques juste après, c'est là que j'ai décidé de m'engager justement.
Est-ce que vous avez déjà donné de votre temps dans cette association ?
Oui, ça fait plusieurs fois qu'on fait des activités, on fait par exemple de l'aide aux devoirs où on accompagne des enfants, le jardinage aussi qu'on a fait pour les 48 heures de l'agriculture.
Le mercredi après-midi, la plupart du temps, il y a des activités et donc on est présent sur ces activités justement où on fait surtout de l'animation et de l'accompagnement des personnes, que ce soit des personnes âgées ou des plus jeunes.
Est-ce que vous pensez que ça va être utile dans le cadre de vos formations ?
D'un point de vue purement rationnel, j'imagine que oui, c'est toujours bon sur un CV, par exemple, de dire qu'on a été bénévole, ça montre de belles valeurs. On travaille pas uniquement pour l'argent, mais aussi pour donner du sens à ce qu'on fait, notre parcours.
Mais je pense que c'est une expérience importante et enrichissante. Je pense que ça nous ouvre un peu aussi les yeux sur le monde actuel et sur la dureté. Enfin, les personnes âgées qui sont isolées, ou même pas seulement les personnes âgées, mais les personnes isolées, on n'en parle pas assez aujourd'hui et pourtant c'est un vrai sujet. Donc je pense que oui, c'est intéressant et même au niveau de ma formation, ça peut m'aider dans le futur.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez ?
Alors aujourd'hui, on travaille avec les centres pour personnes âgées, EHPAD, résidence autonomie, on travaille avec beaucoup de personnes à domicile, on travaille avec des CCAS, des centres sociaux, beaucoup de centres sociaux aussi. Donc on a des structures, mais on est aussi directement sur le domicile. Et pour les enfants, on travaille beaucoup dans les quartiers prioritaires de la ville. On a des partenariats pour faire que l'enfant, au bout d'un an, et demi, ne soit plus isolé et ait des notes tout à fait correctes à l'école. Alors pour une information, je vais parler d'Isra, qu'on continue à accompagner parce que c'est un enfant sans papier. Il y a 2 ans et demi, elle était chez nous, on l'a accompagnée 1 année. Elle ne savait ni lire, ni écrire, ni parler le français. Et aujourd'hui, elle est première de son école. Voilà le type de succès que nous aimons bien. Elle n'a plus besoin de nous. Donc, elle continue son développement toute seule. Donc, on a des partenaires un peu partout, là où il y a des besoins et là où l'isolement se trouve, bien sûr.
Quand vous dites que vous accompagnez les personnes, ça consiste en quoi ?
Alors, pour les accompagnements des majeurs, ça peut être des étudiants, on a aussi des étudiants. Donc, un bénévole rencontre la personne isolée 1 à 2 fois par semaine pendant 1h, 1h30. L'idée, c'est de parler, discuter. Alors, c'est pas faire la vaisselle et les courses. Parler, discuter, dialoguer, passer un bon moment, se raconter la vie. Et c'est surtout que ces personnes puissent avoir un confident, un ami, auprès duquel ils puissent dévoiler un certain nombre de choses qui restent confidentielles, mais c'est quelque chose d'important. Il y a tellement peu d'amitié chez les personnes isolées que ça pose un problème aujourd'hui.
Avec Jean-Jacques Derosio, président de l'association T'as un ami, Julien et Marine, tous deux étudiants et bénévoles de cette association, qui nous présentent leur nouvelle action.
Alors, cette action, on s'est réunis fin d'année dernière. On a fait un constat qui est quand même assez triste. D'abord le premier élément, c'était la situation des personnes âgées. On a vu que dans les structures médicalisées et non médicalisées, voire dans les villages où il y a des personnes âgées, on avait tendance à moins bien accompagner sur le plan matériel les personnes âgées. Alors, quand je dis matériel, c'est bien manger, avoir de bons soins, etc. Là, nous, on gère pas, mais on voit une dégradation quand même très forte. Je prends un exemple qui peut parler à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est dans les EHPAD, il peut y avoir entre 40 et 50% d'absentéisme. Vous imaginez comment les personnes âgées vivent ce phénomène. Mais nous, on s'intéresse surtout à l'aspect psychologique. On a vu des personnes âgées qui ne voyaient plus personne, et de plus en plus, si ce n'est un médecin, voire un aide-soignant, une aide-soignante. Et ça, ça nous a attristés. On s'est dit, on ne peut pas laisser faire. Parce que je pense que notre société sera jugée demain à la façon dont elle s'occupe des personnes âgées. On voit qu'il y a une détérioration forte. Et on a lancé ce projet que je trouve magnifique. On va faire des sketchs.
D'où est venu ce projet ? Alors, vous nous avez donné un peu les motivations, le pourquoi ? Choisir le rire, pourquoi ?
On s'est dit que on voit partout, à la télé, au niveau des radios, tout le monde dit que les personnes âgées sont mal loties, entre guillemets, c'est-à-dire elles n'ont pas la chance d'avoir une vie comme vous et moi. On l'entend partout. Et ça ne change pas. Au contraire, ça s'aggrave. Et puis on s'était dit, et si on faisait des sketchs en mélangeant comique et situation réelle de personnes âgées, est-ce que les gens, donc les familles des personnes âgées, les petits-enfants, les proches, et vous et moi, on ne prendrait pas plus conscience que un jour on sera aussi une personne âgée et qu'on a vraiment envie de parler, discuter et d'avoir un bien-être psychologique avec ces personnes. Donc on a vraiment eu cette prise de conscience. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, le rire peut changer le monde. Je crois que le rire peut changer le monde, mais c'est qu'un avis.
Oui, la dérision, c'est très fort et c'est très puissant. concrètement, comment ça va se passer?
Alors, concrètement, on a nos petits jeunes qui sont ici et d'autres. Hein. On va sortir 5 films, 5 sketchs. Les sketchs ont pour objectif de traiter des situations de personnes âgées pour montrer combien il est difficile de vivre dans notre société pour une personne âgée isolée. Je vais prendre un exemple très simple. C'est le premier qui est sorti, donc vous pourrez le retrouver tout à l'heure. On vous donnera effectivement les liens pour pouvoir y aller. Donc, c'est Jeanine Ronde qui est amoureuse de James Bond. Et pourquoi Jeanine Ronde est amoureuse de James Bond? C'est parce qu'elle est isolée, elle vit dans son monde, elle n'a plus personne à qui parler, partager. Donc, elle s'est inventée une vie. Et ça, c'est une vraie souffrance, s'inventer une vie. Vous savez, quand on s'invente une vie, ça veut dire qu'on ne compte plus sur la société actuelle. Et nous avons côtoyé énormément de personnes qui se sont inventées une vie et qui, derrière, ne veulent plus la quitter parfois. On va rencontrer ces gens. Vous voulez voir une personne, un ami bénévole ou un bénévole? Ben, il y a des personnes âgées qui nous disent « Mais non, maintenant je suis dans mon monde. Laissez-moi mourir dans mon monde. » C'est dur comme image. Donc nous on dit, prenons conscience, vous les familles, vous les personnes, toutes les personnes en France, qu'il y a une personne isolée, âgée, proche de chez vous, qui serait très heureuse que vous partagiez un café, que vous puissiez discuter une heure par semaine et faire que la vie de cette personne soit meilleure.
Travailler sur la déconstruction des préjugés, ça prend du temps.
Bien sûr. Alors on ne l'a pas fait au hasard. D'abord, on a les 5 sketchs, on connaît déjà à peu près le contenu. Mais après, on va voir les personnes, des personnes âgées. On leur dit, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est à le reflet, même si ce sont des sketchs avec des parties comiques, est-ce que c'est bien le reflet de ce que vous vivez? Et souvent, on nous dit, bah, c'est exactement ça. Voilà. Et on ne l'a pas fait dans notre petit coin, parce que même si on accompagne beaucoup de personnes âgées, de personnes de générations différentes, mais on parle des personnes âgées aujourd'hui, on en rencontre beaucoup. Mais je peux vous dire que tout ce qu'on a écrit dans ces sketchs, et il y aura un sketch qui sera diffusé tous les mois, tout ce qu'on voit au niveau de ces sketchs, c'est la réalité. C'est une réalité qui nous fait rire. J'espère que le premier sketch vous fera rire. Mais c'est une réalité qui est triste pour les personnes âgées.
Comment est-ce que vous allez les diffuser?
Ce qu'on a pas mal fait ces derniers temps, effectivement, c'est de contacter des médias, comme des radios, des journaux, en essayant d'ouvrir le plus de portes possible. On va essayer de répandre le mot pour que tout le monde puisse, s'il le souhaite, regarder ces petits films et prendre conscience de cet isolement social.
Et ce qui est également important aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc tous nos sketchs, ils sont diffusés sur nos plateformes, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter.
Sur le site internet Tanami, vous tapez www.ta1ami.fr, rubrique actualité, et vous verrez cette Jeanine Ronde. On en est amoureux, tellement elle est gentille, mais on voit qu'il y a une vraie problématique d'isolement, mais c'est vraiment pris à la dérision. Et je sais que ce sketch est lancé depuis peu, depuis une semaine, sur tous les réseaux, et que cette prise de conscience permettra à vous toutes et tous de venir peut-être un jour bénévole, mais peut-être tout simplement aller frapper au sein d'un EHPAD voisin à côté de chez vous. Bon, j'ai parlé à une personne âgée qui est isolée chez vous une heure par semaine, et vous verrez qu'ils vous accueilleront bien et que ça changera vraisemblablement la face du monde dans quelques années, voire peut-être quelques dizaines d'années. C'est long à corriger, bien sûr.
Nous étions avec les responsables de l'association T'as un ami, reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus
106,6.
Nous, c'est le foutu mélange.
Dans la rue des cœurs brisés, j'ai croisé des gens qu'on mit en stand-by leurs illusions vers le cap des bonnes espérances. Vingt cours de la liberté, un vieux camarade syndiqué à qui on a volé ses rêves. Dorénavant c'est marche ou crève. Comme les gens du voyage voudraient rouler. Rouler comme les gens du voyage voudraient tirer. Je voudrais vivre d'un aller sans retour. Dans la rue des anonymes, t'as tous ceux qui se font malaxer, qui se font rouler dans la farine, un bulletin de vote comme aspirine. Et sur l'avenue de nos fantasmes, des films sans sécurité, comme un marasme dans nos têtes, un miroir mais sans alouette, comme les gens du voyage voudraient rouler. Comme les gens du voyage voudraient tirer, je voudrais l'ivresse d'un aller sans retour. Et dans la rue des sans-papiers, des averses de désillusions, on renvoie au pays de ses pères un homme qui aime France comme une mère. Dans la passe des plaidoyers, le Chibani assis sur un banc, Moshe et Mohamed rêvent de trêve, ils rêvent de paix de leur vivant. Comme les gens du voyage voudraient rouler, rouler. Comme les gens du voyage voudraient tirer, je voudrais l'ivresse d'un aller sans retour. Je voudrais tirer, je voudrais l'ivresse d'un aller sans retour. Comme les gens du voyage voudraient rouler, rouler. Comme les gens du voyage voudraient tirer, je voudrais quitter la rue des cœurs baisés.
Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables
Du 29 au 31 août, le parc départemental d'Olin, près de Béthune, va vibrer au rythme du Bivouac Festival, un festival de musiques actuelles co-organisé par le parc, l'association Droits de Cité et le producteur lillois À Gauche de la Lune. Un rendez-vous musical différent puisqu'il se revendique éco et slow. Éco pour les engagements pris pour limiter l'impact carbone et donc les nuisances sur l'environnement. Et slow, parce qu'avec une jauge limitée à 2000 personnes et une volonté de ne pas surcharger le rythme de ce festival, c'est un rendez-vous qui aime prendre son temps. Présentation de l'événement avec Florent Decroix, directeur d'À Gauche de la Lune et l'un des co-organisateurs de ce festival.
Le festival, en fait, est co-organisé par le parc d'Olin, en fait, avec qui on travaille en étroite collaboration, et l'association Droits de Cité, qui est une association qui œuvre dans les Hauts-de-France pour le développement de la culture et l'action culturelle, y compris en milieu rural.
Alors, si on devait résumer en quelques mots l'esprit du festival, qu'est-ce qu'on peut dire ?
L'esprit du festival, en fait, c'est de bien manger, bien s'amuser, bien dormir, en passant du bon temps ensemble. En fait, l'idée de ce festival, c'est d'être un peu à rebours des festivals traditionnels, c'est-à-dire que c'est dans un cadre naturel, c'est complètement éco-conçu. On pourra y revenir un peu plus tard. Et c'est un festival où on va prendre son temps parce que il n'y a pas de planning démentiel et on mélange en fait des activités sportives, des activités de plein air, avec de la musique, de la gastronomie, et surtout, en fait, on peut dormir sur place, arriver le vendredi et repartir le dimanche, soit en formule de camping, soit dans un cabanon, soit dans une bulle, dans un arbre, ou même venir avec son van ou son camping-car.
Et c'est vrai que, outre la musique, qui est aussi un des critères hein, pour faire le choix d'un festival lorsque l'on est spectateur, il y a de plus en plus cet attachement à l'expérience autour du festival. Et là, justement, il y a plein de choses qui se passent pour faire de ce week-end du 29 au 31 août un week-end mémorable.
Tout à fait. Donc, en plus de la musique, alors il faut savoir que les groupes, alors on a quelques têtes d'affiche à notre niveau, mais c'est surtout des vrais coups de cœur live, c'est-à-dire que ce qu'on présente à Bivouac, en fait, c'est avant tout des artistes, en fait, qui sont incroyables en live, et les éditions passées, en fait, nous ont donné raison, et les gens, sans forcément connaître les artistes présentés, en fait, ont été conquis par leur performance sur scène. Mais au-delà de la musique, en fait, qui reste une des composantes, on peut bénéficier pendant Bivouac de toutes les activités du parc, c'est-à-dire que on peut aller à la piscine, on peut aller dans les filets dans les arbres, on peut faire de l'acrobranche, on peut faire de la luge, il y a des cours de yoga qui seront organisés. Cette année, en fait, il y a même une petite nouveauté, en fait, parce qu'on a décidé de vraiment travailler sur la mobilité du public, et on sait que le parc d'Olin, en fait, est très très mal desservi par les transports en commun. Donc cette année, en fait, on va avoir d'une part des navettes depuis la gare de Béthune, en fait, pour emmener les festivaliers jusqu'au parc, mais surtout, en fait, pour tous les gens qui viendront en vélo, on a décidé de leur offrir le camping, et surtout, en fait, on aura un atelier de réparation et réglage de vélo sur place, gratuit pour tous les gens qui viennent à Bivouac en vélo.
Le pari de ce festival est de limiter son impact carbone. Pour cela, les organisateurs travaillent avec un cabinet indépendant chargé d'évaluer les données. Si la note est déjà maximale, pourtant, les organisateurs promettent de faire encore mieux. Les explications de Florent Decroix, co-organisateur du Bivouac Festival.
On veut toujours faire mieux, si vous voulez. Juste pour rire, l'année dernière, on a consommé un litre de gasoil sur un groupe électrogène qui s'est mis en route à 1h du matin pour éclairage de sécurité, en fait. Donc, on va essayer de faire mieux et de pas faire en sorte qu'il ne s'allume pas. Mais, en fait, le champ d'amélioration, en fait, est assez vaste, en fait, y compris sur... parce que quand on parle d'éco-festival, on a tous en tête CO2 ou consommation énergétique. Par contre, il y a tout un volet en fait territorial et retombé pour le territoire en fait qui est vraiment à travailler. C'est-à-dire que on peut toujours faire mieux sur l'emploi local, sur les fournisseurs locaux. En fait, on a choisi nous de restreindre notre champ d'approvisionnement à 10 voire 15 kilomètres autour du festival. Et Malheureusement, par exemple, pour les mâts hybrides qui nous servent d'éclairage de sécurité, en fait, on les a que à Lille, en fait, ces choses-là. Donc ça, c'est à améliorer, en fait. On essaie de trouver une autre solution que ces mâts. Et des solutions, il y en a avec le développement des industries de batteries sur la zone industrielle de Ruy. Je pense qu'à terme, on arrivera à se fournir en batteries là pour alimenter notre éclairage de sécurité. Ce sera pas encore cette année, ce sera sûrement l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Mais voilà, ce genre d'amélioration est toujours possible. Et après, l'amélioration continue sur l'inclusivité, le rapprochement des publics, les données de la culture, etc. En fait, il est infini. Et en fait, même un A, en fait, est peut-être encore dépassé par un AAA ou un AA+.
Et puis côté local, il y a également la gastronomie, ça aussi ça fait partie des petits plus bien agréables de ce festival, parce que la restauration se veut de qualité et surtout locale.
Oui, alors la restauration est gérée par une entreprise en fait qui est basée à Bruay-la-Bissière, donc à un bon 4,5 km du site, qui était avant un estaminet, l'estaminet de la Belle au Bois en fait à Bruay-la-Bissière, pour ceux qui connaissent, en bas de la pente du Vélodrome, et donc tout est fabriqué sur place à base de produits frais, à base de produits qui sont achetés dans notre rayon de chalandise qu'on s'est imposé. Et petit truc rigolo, c'est qu'en fait, pour faire bivouac, en tout, on a 32 ampères qui viennent de la musique, qui viennent de la piscine, qui nous servent à faire les 3 scènes, le camping, la cuisine, etc. Donc en fait, on ne peut pas cuire de choses avec des fours qui consomment de l'énergie parce qu'on n'a pas assez de puissance. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont cuites au barbecue et à la broche.
Toujours dans l'optique de limiter son impact carbone, ce festival a un cahier des charges pour la programmation. Privilégier les artistes locaux, régionaux, nationaux, parfois belges, en tout cas sans jamais aller chercher des stars internationales venant faire leurs concerts en jet privé.
Oui, alors on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir des artistes régionaux, belges, et on essaie de pas trop dépasser Paris. Bon, cette année, avec O2N, qui est en partie originaire de Bordeaux, en fait, on vient d'un peu plus loin. Mais en fait, voilà, c'est un cahier des charges qu'on essaye de s'imposer dans la limite d'une programmation qui nous fait plaisir aussi, quand même. Même ces petits dépassements-là, en fait, sont on s'arrange toujours pour les compenser par autre chose, pour garder notre A. Si on a 50 cyclistes, en fait, on compense le O2N qui vient de Bordeaux.
Cette programmation se veut en tout cas éclectique. Tour d'horizon avec Florent Decroix, co-organisateur du Bivouac Festival.
Alors, vendredi, on aura Sheila, on aura Losa Pardo, François Enziat Las Montagnes. Ça, c'est un peu mon petit coup de cœur de l'année. C'est Camille Yembe, qui est une jeune Belge aux influences pop-rap, et un avenir vraiment très prometteur et qui fait pas mal parler d'elle en ce moment pour les gens qui sont intéressés par ce type de musique. On a forcément O2N, qui est un groupe qui, correspond absolument aux valeurs du festival et qui est extraordinaire sur scène, donc on est vraiment ravis de les avoir cette année. Une autre pépite aussi qui s'appelle Martha et qui est un groupe de techno joué live avec plein d'instruments et qui est assez étonnant et qui fera bien le pont avec la scène de la piscine où on aura des DJ qui vont enchaîner de 11h à 3h du matin.
Pour le samedi, du beau monde aussi, avec notamment Malik Djoudi.
Ouais, Malik Djoudi en tête d'affiche. On présente plus trop Malik, mais on est ravis de l'accueillir cette année. Alors, un régional de l'étape, notre Samy de Coaster et Digital Chauvage, qui sera là cette année. On est super content de l'avoir. Petit coup de cœur pour Whisper, en fait, pareil, projet très entre chansons et pop alternative, en fait, qui a été une musicienne de This Is La Peste qu'on a eu. C'était l'année première année sur Bivouac, en fait. Donc, on est content de l'avoir. Revenir au festival. Après, on aura iFed, qui est un projet un peu funk, disco, rock, qui est hyper fort en live. Blasé, qui est un producteur franco-américain, plutôt dans une ambiance électro, en fait, qui sort son premier album là cette année. Et nous étions une armée, en fait, duo, influence pop-rock, post-rock, donc un peu de guitare sous les arbres, ça fera du bien. Le dimanche, en fait, Canapé Mix et Groupe des Familles, en fait, sont les deux collectifs, en fait, qui opèrent sur la scène de la piscine, qui cette année, en fait, va être ouverte un peu plus, de façon un peu plus extensive, c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir plus tôt dans l'après-midi, et il y aura un tournoi de pétanque, enfin des jeux, des choses comme ça qui vont se dérouler au bord de la piscine en musique avec le groupe des familles, et ensuite ils font la boîte de nuit du camping, en fait, de 23h à 3h du matin, en fait, sur la scène de la caravane. Donc voilà, et sur le dimanche en fait on a décidé de d'y aller vraiment en pente douce, c'est-à-dire que on a remarqué que les gens se levaient très tard, etc., ils voulaient quand même repartir tôt. Donc cette année, en fait, on va organiser des choses qui seront plus des animations. Donc on aura un bingo, on va renouveler l'opération menu anti-gaspi, c'est-à-dire que un peu comme au mariage on fait un rebond, et ben on va finir les restes du festival, je parle de la nourriture, pour un menu anti-gaspi à 5€. Et l'année dernière, en fait, c'est ça aussi qui fait qu'on a des bonnes notes et qu'on s'améliore régulièrement, c'est que on a fini avec aucun reste, donc on n'a rien jeté, absolument rien, sur Bivouac l'année dernière en termes de nourriture.
Alors pour terminer, Florent, que dire à ceux qui nous écoutent pour les convaincre de venir au Bivouac Festival au parc départemental de l'Ain du 29 au 31 août ?
Que ça va être super, en fait, mais vraiment, en fait, pour organiser énormément de concerts à l'année, etc., même pour nous, à Gauche de la Lune, en fait, Bivouac est vraiment un moment très privilégié, en fait, où même si on organise, on se détend, on prend son temps, on passe des très bons moments, et surtout, on rencontre des gens, on a le temps de discuter avec le public a le temps de discuter avec les artistes, en fait, il se passe plein de choses dans le microcosme Bivouac, qui fait que au-delà de la musique, de tout ce qu'on va y trouver, en fait, c'est un vrai moment de partage, une espèce de moment suspendu, en fait, où on prend le temps de rencontrer les gens dans la nature.
Le Bivouac Festival, c'est donc au parc départemental d'Olin du 29 au 31 août. Les billets sont de 27€ par jour de concert, 52€ pour le pass week-end. Billetterie, programmation et toutes les infos utiles sur le site internet www.bivouacfestival.com. Un sujet réalisé par Julien Maille pour Radio Plus.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Sensitivity washes over me till I'm left here a rebel without a cause, and the deeper I delve into the consciousness of me and you, the hotter it gets. I need to close my eyes. What hurts me most, I never see your eyes again. The hotter it gets, I need to close my eyes. I can't recollect, I never see your eyes again. I try to forget, I never see your eyes again. Hurts me most, I'll never see your eyes again. So don't touch me.
J'ai une petite communication là, s'il vous plaît. Awan, Anto, depuis que l'homme est homme bipède mammifère, qu'il a croqué la pomme amère, c'est l'enfer. Ouais. Effet de serre, effort de guerre, famine aux quatre coins de la sphère, l'enfer.
Ça, c'est sûr.
Pourquoi chercher ailleurs l'ultime solution quand la clé du bonheur est sous notre paillasson? Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, repoussons-le à demain. Paresseux de tous les pays, donnons-nous le poil qu'on a dans la main. De l'or à la lyra, que soldat sur le champ. Voyez vos hamacs douillets en fredonnant. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, repoussons-le à demain. Paresse de tous les pays, donnons-nous le poil qu'on a dans la main. La seule réforme à faire pour le bien-être sur cette terre, la seule, mais de toute urgence, dès la naissance, la divine trouvaille nous rendra tous égaux. Partageons le travail en tout petits morceaux. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, repoussons-le à demain. Paresse de tous les pays, donnons-nous le poil qu'on a dans la main. Tout ce qu'on main, que Dieu dans sa sagesse nous refasse facile. En deux coups de terre glaise à l'image du reptile. Retrouver le jardin d'Éden sans tarder sur cette terre enfin sereine. Les ardées. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, repoussons-le à demain. Paresse de tous les pays, donnons-nous le poil qu'on a dans la main. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, repoussons-le à demain. Paresse de tous les pays, donnons-nous le poil qu'on a dans la main.
Allez, allez, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Yeah. Un drôle de camion jaune sillonne les Hauts-de-France en ce début juin. Parti de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, le camion de l'Info s'est aussi rendu dans l'Oise à Beauvais, allant dans l'Aisne ou encore à Villers-Cotterêts où nous sommes. Et cette fourgonnette jaune, bien visible, c'est celle de Lumière sur l'Info, une association de journalistes qui lutte contre la désinformation. Elle a entamé une tournée partout en France pour aller à la rencontre du public. Et justement ici, à la Cité internationale de la langue française, on est dans un lieu chargé d'histoire de par sa célèbre ordonnance en 1539, ordonnance signée par François Ier qui impose le français dans les actes administratifs. On retrouve Pierre Bonnera, chef de projet dans l'association, occupé à terminer son installation dans la cour du Jeu de Paume.
On est très bien installé en plein dans la cour, qui est un très très bel endroit, avec un peu de passage, avec un petit peu de musique parce qu'il y a une fête foraine à côté. Donc voilà, c'est très agréable. Oui, on est très très bien reçu ici à la Cité internationale de la langue française.
Un lieu de passage, un lieu vivant. Quel est l'objectif de votre présence ici ?
En fait, c'est dans le cadre de la tournée donc de notre camion de l'info. C'est une tournée nationale sur quasiment 2 mois, où on est parti de Boulogne-sur-Mer il y a quelques jours, samedi dernier, et on arrivera à la fin du mois de juillet, je crois aux alentours du 25 juillet, à Marseille. Donc on fait vraiment le tour de France, une cinquantaine d'étapes, à peu près 4000 km, pour aller à la rencontre des gens, là où ils ne nous attendent pas forcément, c'est-à-dire là dans la cour de cet endroit superbe, mais aussi dans un collège, mais aussi dans un EHPAD, mais aussi sur un parking de centre commercial, sur une aire d'autoroute, à la plage au mois de juillet avec les vacanciers. Donc voilà, on va vraiment surprendre les gens pour leur raconter un peu notre métier de journaliste, comment ça fonctionne en vrai, le système de l'info en France, comment on fabrique tout ça, les actualités qu'on voit au journal de 20h, dans le journal papier ou à la radio. Et puis aussi, pour faire un peu de prévention contre la désinformation, les fake news, comme on dit en mauvais français. Tout le monde peut être touché, y compris les journalistes et les gens. Alors voilà, on va à la rencontre de tout le monde pour leur expliquer ça.
Un vrai tour de France du coup. Alors on a des unes de presse ici, on a des caméras, des bonnets de différentes télé ou radio. Il y a différents ateliers, des animations justement qui sont prévues tout au long des journées où vous passez sur les villes où vous allez.
Déjà on a quelque chose qui marche toujours très bien, qu'on appelle le quiz Tromito. Tromito, c'est le nom de notre média. Un quiz en version adulte, en version junior, qu'on propose à tout le monde, qui permet de tester un petit peu ses connaissances. Alors par exemple, je pourrais te poser une question et on pourrait voir si tu réussis. Est-ce qu'on fait ça? On
Allez,
le tente
carrément.
Allez, on le tente. On le tente ensemble au micro. Alors par exemple, est-ce que tu sais ce que c'est, toi, qu'un journaliste pigiste? J'imagine que tu sais quand même.
Ouais, du coup. Bon,
Est-ce que c'est un journaliste qui comprend tout, un indépendant payé à la tâche, un chargé de la une ou un bénévole?
Parfois bénévole.
Non, sérieusement, c'est un journaliste indépendant qui peut travailler pour plusieurs rédactions à la pige. Il est rémunéré en salaire, mais à la tâche, un peu comme un intérimaire qui intervient ponctuellement pour la rédaction d'articles ou la réalisation de reportages. Voilà, en fait, on propose ça sur des tablettes ou sur un petit calepin, un papier. Et puis, ça permet de tester tout le monde et de rigoler un coup aussi et d'apprendre des choses autour des médias et du journalisme.
Ce qui est pas mal dans ce petit quiz, c'est qu'il y a aussi des photos générées par l'IA. Est-ce que c'est des fake news, pas des fake news? Dans quel contexte on retrouve ces images? Et ça, aujourd'hui, c'est aussi le but de l'asso. C'est primordial de sensibiliser là-dessus.
On est tous impactés de près ou de loin par l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou autre, et ça va aller en augmentant au fil du temps, au fil des jours et des semaines. Donc voilà, on est là pour faire de la prévention, on n'est pas là pour faire peur. Et puis voilà, on a des exemples concrets de photos qui paraissent aussi créées par l'intelligence artificielle mais qui ne le sont pas. Par exemple, cette photo de Trump qui est allé dans un McDo dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle, qui paraît tellement dingue qu'elle pourrait être créée par l'intelligence artificielle mais qui n'est pas, qui est une vraie photo. On a aussi une photo d'Emmanuel Macron en éboueur, avec le gilet jaune et le casque et les gants, et les poubelles, mais qui est totalement fabriqué par l'IA, où on voit qu'il a des mains trop grosses, qu'il a une capuche dans son cou, qu'il manque des doigts à une personne qui est sur le côté, enfin bref.
Après, voilà. Un feu tricolore américain en fond aussi.
C'est ça, voilà. Donc il y a des petits détails comme ça qui permettent de repérer les vieilles photos générées par l'IA générative, mais ça va aller en se perfectionnant et c'est même quasiment parfait, on le voit maintenant avec cette fameuse vidéo de Google qui recrée un faux reportage sur un salon de l'auto qui est totalement parfaite. En fait, on arrive plus à voir la différence entre un reportage fait par Automoto sur TF1 et un truc fait par Google totalement inventé. Donc il y a ça aussi qui est très intéressant et on est là simplement pour prévenir, essayer de le faire de notre mieux.
Donc on retrouve l'association Lumière sur l'info également sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de petites vidéos, hein, justement, on explique les fake news, etc.
Mais c'est ça, en fait, depuis quelques années, on a créé le média Trop Mytho, animé par deux jeunes qui s'appellent Scotty et Maïssa, qui est présent sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram, où par des formats courts, des formats un peu plus longs, on essaye d'expliquer les grands faits de société, de décrypter, d'expliquer avec les codes de YouTube des jeunes de maintenant, comment tout ça fonctionne. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci à vous. Et voilà, et c'est comme ça qu'on travaille. Attention, top, on est en direct.
Alors qu'une classe de CM2 s'essaye au reportage en direct, on se rapproche de Paul Rondin, directeur de la Cité internationale de la langue française, présent au milieu des élèves. Paul, ce camion de l'info a toute sa place ici ?
Bah oui, alors ça c'est un rêve de gosse, parce que d'abord j'adore les camions, j'adore le côté forain qu'apportent les camions dans les lieux culturels. On ne sait pas bien ce qu'il y a dedans, mais on imagine plein de choses. Et puis là, plus sérieusement, ce qui nous importait, c'est que c'est le camion de l'info, c'est écrit en énorme dessus, Trop Mytho, et c'est pour expliquer à toutes celles et ceux qui passent dans cette Cité internationale de la langue française à quel point il est important d'abord de soutenir en les lisant, en les écoutant, en les regardant les journalistes, parce que c'est eux qui font un vrai travail de mise à distance de l'information, contrairement à beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux où l'information n'est jamais vérifiée. Et puis que pour la cité, ce qui est important aussi, c'est de dire que l'information, c'est une langue, ce sont des langues. Il y a plein de registres de langues. On ne parle pas tous le même français, les mêmes français. Mais qu'on a besoin, pour s'exprimer, surtout pour être compris, de maîtriser certains codes linguistiques. Et une fois encore, ça ne veut pas dire parler un français, un seul bon français. C'est parler les langues françaises pour être entendu des autres, écouté et compris.
Alors, il y a des petites animations avec des enfants qui viennent, des collégiens qui sont prévus également. Ça, c'est important aussi de créer un lieu d'échange autour de la langue française dans ces lieux. C'est un lieu qui est fait pour ça, justement.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que, vous le dites bien, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. Ça s'appelle une cité. C'est pas un musée ici, c'est pas un conservatoire de la langue du tout. C'est un endroit où on montre la langue qui est en train de s'augmenter en permanence. Donc aujourd'hui, c'est le camion de l'info. Demain, ça sera toute une journée sur le braille. On aura des concerts hip-hop, on aura de l'humour, on aura... Il se passe toujours quelque chose à la cité, et que ce soit dehors, dedans. Et c'est pour tous les publics. Donc oui, il faut que les gamins, les plus âgés, ceux qui sont entre les deux, puissent trouver toujours quelque chose à faire. Vous savez, moi, je répète toujours, on est très, très sérieux ici à la Cité, mais on est aussi et surtout peut-être très joyeux. Et on est presque une fête foraine de la langue.
Maintenant que vous avez appris plein de choses, il est l'heure de passer au test. Et on va vous tester sur vos connaissances. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Il y a 10 questions. On veut 10 bonnes réponses.
L'école dans la cour des offices. Pierre, vous êtes enseignant et vous êtes avec votre classe de CM2. C'est important de sensibiliser les enfants à l'information, aux fausses news, etc.
On est dans une période où il y a plein d'informations qui circulent et ils ont accès à beaucoup, beaucoup de contenu, pas forcément adapté. Donc vraiment faire le tri pour eux, c'est quelque chose qu'il faut faire et reprendre souvent.
Et vous, en classe, comment vous faites justement, peut-être pour les sensibiliser ou essayer de les mener vers la bonne info ou le bon comportement en tout cas ?
Bah, on a déjà fait un petit peu d'éducation aux médias. Là, on a vu des contenus qui étaient un peu similaires, mais donc du coup, reprendre avec eux, essayer d'avoir des discussions régulièrement sur ce qu'ils trouvent sur les réseaux, à quel type d'informations ils sont confrontés, même des types de contenus, même sur les problématiques liées à leur puberté qui arrivent. Donc il y a plein de questions comme ça qu'il faut reprendre régulièrement.
C'est pour les JO ?
Moi, j'y crois pas.
Entre les classes, des familles passent aussi discuter avec les journalistes. Rencontre avec Nina et sa maman Charlotte.
Ouais. Ça, c'est une manipulation pour
mettre un texte.
C'est quoi ton prénom ?
Nina.
Nina, t'as quel âge ?
11 ans et demi.
11 ans et demi. Alors, tu trouves que c'est bien ? Pourquoi ?
Parce que, on dit des trucs vrais et comme ça, on croit pas des faux trucs.
Sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est facile d'avoir de la désinformation ?
Oui.
Et alors, selon toi, comment on trouve le vrai du faux, justement ? Comment on essaye de pas se faire avoir ?
Faut faire des recherches et plus regarder, rechercher des trucs, quoi, pour que ça soit vrai.
Et alors, du coup, vous trouvez ça important de sensibiliser les jeunes, justement, à la désinformation, à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ?
Ouais, complètement. Je pense que c'est les premiers auprès de qui il faut agir. Tout se passe à l'école.
Et ils discutent entre copains, ça va vite les rumeurs, quoi, encore plus vite qu'avant.
Alors, il y a des questions visuelles avec des photos à regarder. Par exemple, on va commencer par ça. Qui est...
Et alors, les journalistes, que pensent-ils des fake news et de la défiance du public?
Est-ce que c'est Léa Salamé? Est-ce que c'est...
Moi, je m'appelle Bettina Lioret, je suis journaliste, autrice de récits documentaires pour Affaires Sensibles sur France Inter et formatrice en éducation aux médias et à l'information.
Alors, c'est quoi ton rôle, justement, sur cette journée?
Notre objectif, c'était de sensibiliser le grand public et aussi des scolaires aux enjeux de l'information et de la désinformation, répondre aux questions que se posent les gens sur le métier de journaliste et comment vérifier une info. On a abordé pas mal de thèmes, on a eu plein de questions, c'était très enrichissant. Puis c'est toujours bien de savoir ce que pensent les gens des journalistes et de répondre aux questions. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse pour lutter contre la méfiance, la défiance grandissante des citoyens à l'égard des journalistes.
Alors, c'est quoi la difficulté? Quel public est le plus difficile, en tout cas? Les jeunes, les moins jeunes?
Les jeunes, ils sont plutôt en admiration, je trouve, vis-à-vis des journalistes. Ils sont pas trop dans la défiance. C'est plutôt les adultes et parfois les seniors qui ont déjà une opinion bien forgée, qui ont vu aussi les médias évoluer et à leurs yeux, pas toujours dans le bon sens. Donc, nous, on est là aussi pour apporter un peu de nuance à des discours parfois assez catégorique, et dans ce sens-là, c'est intéressant.
Merci Bettina, et le camion de l'info, vous aussi, vous l'avez peut-être aperçu, du 31 mai au 3 juin dernier à Boulogne-sur-Mer, sur Abbeville, le 6 juin dernier à Beauvais. L'équipe de journalistes poursuit son tour de France. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur l'IA, les fausses informations ou les médias, je vous invite à consulter Trop Mytho, le compte sur les réseaux de l'association Lumière sur l'info. Vous pouvez aussi tout simplement venir rencontrer des journalistes et professionnels des médias pour discuter.
Ça n'a pas été vérifié.
Un reportage de Thomas Pronguet pour RVM dans le Valois et le Mulcien.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Eh mais dites donc, vous ne seriez pas sur la première radio libre de France? Mais si, vous êtes sur Radio Campus, 106,6, et sur le DAB+.
Non mais, t'as pas oublié le site là?
Ah oui, et rendez-vous aussi sur www.campuslille.com.
Monsieur Pedro Ramirez, le grand lanceur de couteaux, fait encore son numéro, même s'il a la vue qui baisse, on ne le voit jamais sans Dolores, une merveille, à la crinière vermeille, au costume affriolant. Depuis tant et tant d'années, qu'ils font tous les cabarets de Paris, du monde entier, partout ils sont admirés. Faut dire qu'il était habile pour envoyer ses couteaux qui juste frôlaient la peau de son adjointe gracile. Faut dire qu'elle était vaillante, regardant sans tremblement les couteaux et son amant, superbement arrogant.
Les bravos, les théâtres.
Que veut Ramirez, têtu comme un bourricot, c'est lancer tous ses couteaux, même s'il a la vue qui baisse. C'est comme ça que chaque soir, Dolores perd un orteil, un œil, un nez, une oreille. Ce n'est pas joli à voir.
Sa seule adresse.